L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Cécilia Duterre, bonjour. Les auditeurs de Radio Notre-Dame et RCF vous connaissent bien. Vous avez chroniqué dans cette même émission des ouvrages de littérature pendant quelques mois. Et puis, vous avez repris l'émission Écoute dans la nuit, aussi pendant quelques mois, émission que vous tenez désormais tous les vendredis de 22h à minuit. Alors, écrivain, vous avez publié plusieurs romans, surtout des essais. On arrive à une petite vingtaine. Vous êtes présidente de l'association Ethyl Soum. Vous parcourez la France pour parler de ce testament spirituel dont vous vous sentez dépositaire. Votre précédent livre mettait en scène Marie-Madeleine et vous revenez sur le sujet avec une nouvelle publication aux éditions du Cerf, Aimée d'un cœur de femme, femme au singulier, en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine. Ce sont deux femmes donc que tout opposerait, la Vierge et la Pécheresse. Mais pour qu'il y ait dialogue, il est nécessaire d'avoir un émetteur et un récepteur. Et votre livre met en scène trois femmes, Marie, Marie-Madeleine et vous. Et c'est vous qui m'intéressez aujourd'hui, Cécilia Duterre. Ô Marie conçue sans péché, dit la prière, en face à face avec la mère de Jésus, que dire? Parce que vous prenez la plume et puis vous y allez. Hein.
Oui, je m'adresse à ces deux femmes qui sont effectivement complètement antagonistes au départ, comme si la Bible nous avait donné à méditer deux femmes en miroir inversé. Donc je pars de ces oppositions majeures. Évidemment, ce sont deux figures qui, a priori, sont totalement antagonistes. Donc je rappelle, effectivement, elles sont oui, tout mais, à fait oui, différentes.
On va y arriver, mais comment s'adresse à la Vierge Marie quand on lui écrit?
Comment on s'adresse à Dieu avec simplicité. La Vierge Marie, c'est la mère des croyants, c'est la mère spirituelle. C'est aussi une figure de tendresse, donc sans peur et sans reproche.
Alors, elle est la maternité avec un grand M, ce qui vous autorise à prier, notamment sur le monde contemporain qui vous désole. Je vous cite, « Marie, en tant qu'icône de la mère protectrice et aimante, ta figure conserve tout son sens à l'ère actuelle de la médicalisation à outrance des grossesses, de l'impitoyable tract de l'anomalie chromosomique, de l'avortement inscrit dans le marbre constitutionnel français depuis peu. La dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, votée à une époque où des milliers de femmes mouraient des suites d'avortements clandestins à l'initiative de Simone Veil, avait pour objet de répondre à une urgence sanitaire. Dans son discours devant les députés, la ministre précisait clairement que cette intervention devait, je cite, « rester l'exception et l'ultime recours pour répondre aux situations sans issue ». Fin de citation. Au contraire, les 220 000 IVG pratiquées annuellement dans notre pays témoignent de combien cet acte, pourtant loin d'être anodin sur le plan corporel et éthique, est aujourd'hui banalisé. Stabat Mater, tu es mon pilier.
Oui, parce qu'à travers ces deux figures, je m'adresse à elle, effectivement. C'est un essai méditation sous forme d'adresse à Marie-Madeleine. Et c'est vrai qu'à travers ces deux figures, je m'adresse aussi à leur féminité, à ce qu'elles représentent. Et Marie, ben, pour moi, c'est la maternité. Et je m'adresse aussi avec mes yeux de femme moderne, de croyante moderne. Et je dis aussi peut-être aux femmes contemporaines combien la maternité maintenant peut être malmenée. Alors, vous avez parlé de l'IVG, mais je parle de maternité en général. On voit la baisse de la natalité en France. Et pourtant, quelle expérience magnifique et quelle puissance aussi pour la femme de l'expérimenter. Dans cette expérience, la femme aussi se relie à l'autre et apprend une... comment dirais-je, c'est une expérience de l'altérité, la grossesse et aussi de la séparation dans l'accouchement.
C'est oui, vous en parlez très bien.
C'est un regard sur la vie, mais c'est aussi un regard sur la mort. Quand on donne la vie, on donne la mort. Donc tout ça, je parle à Marie, mais je parle aussi de ce que représente en fait cette figure. Par Marie-Madeleine, c'est un autre évidemment biais
Alors, aimer d'un cœur de femme, vous décrivez ces deux faces d'une même pièce, finalement, que serait la maternité. Je vous cite, tu comprends que comme toi, vous parlez à la Vierge, tu comprends que comme toi, Marie-Madeleine est bénie de Dieu. Elle est là pour aider le Fils dans sa mission, tout est clair. C'est dans la puissance de votre amour commun qu'il se fortifie, prenant appui sur le socle de douceur et de bonté que vous lui édifiez pour affronter ce qu'il lui est donné de vivre. Marie, tu l'as portée, mise au monde, élevée. Tu as lancé son ministère, prié à chaque instant pour lui, présente à ses côtés par l'Esprit, toujours et en tout lieu, malgré la séparation physique. Le fil rouge qu'il a sans cesse relié à toi, c'est le merveilleux amour maternel dont tu le gratifies. Dans la même lignée, Marie-Madeleine, tu lui as livré l'or de ton cœur, tout à la fois élève, amie, témoin et accompagnatrice privilégiée dans les bons comme les mauvais moments. Tu l'enveloppes de ta tendresse pour qu'il n'ait jamais froid, peur, mal. Chacune de vous joue avec maestria sa partition au sein du singulier concerto que le Père a composé pour lui.
Oui, ça résume le livre parce qu'en
mais
fait,
oui, parce qu'on a les deux faces.
C'est-à-dire qu'au départ, elles sont antagonistes et finalement, elles se rejoignent dans cet amour qu'elles portent au Christ. Elles sont très essentielles et très complémentaires toutes les deux. Je ne les mets pas sur le même plan. Marie reste Marie. Je ne valorise absolument pas cette figure centrale qu'est Marie. Mais c'est vrai que Marie-Madeleine a aussi son rôle et elles sont très complémentaires. Alors, Marie-Madeleine, c'est la disciple terrestre.
Oui, mais alors justement, il va falloir qu'on tise un peu. Parce que Marie ne change rien à ce qu'elle est de toujours, conçue sans péché. Marie-Madeleine, elle, c'est la femme de la conversion. Alors au préalable, vous le signalez en début d'ouvrage, il y a trois Marie-Madeleine. Vous le disiez déjà dans votre précédent livre sur Marie-Madeleine, on a la prostituée, la sœur de Lazare et une autre servante. Et alors, pour vous, elles ne font qu'un.
Alors, la prostituée, déjà, c'est la pécheresse anonyme de Luc. Moi, je la vois pas comme une prostituée du tout.
Ouais, alors, attendez, vous avez des mots extrêmement sévères, hein, suis désolé.
C'est
vous...
la courtisane. Dans un premier temps de sa vie, effectivement...
Vous parlez de l'éros de façon hallucinante, la concernant.
Alors, je reviens sur ces trois visages.
Non, c'est une pute.
Ah, ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Moi, je parle absolument pas ce langage dans mon livre. Mais je reviens sur ces trois visages, parce que c'est important, on me pose souvent la question. Effectivement, ces trois visages qui traversent l'Évangile, la pécheresse anonyme de Luc, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare, et Marie de Magdala au pied de la croix, et puis celle qui, effectivement, sera amenée à être envoyée par le Christ pour porter la bonne nouvelle après être apparue le jour de sa résurrection. Voilà, exact. Et puis après, bien sûr, à la Sainte-Baume. Ces trois visages n'en font qu'un. C'est la tradition la plus ancienne de l'Église hein, qui reconnaît ces trois visages en Marie-Madeleine. Et c'est vrai que cette unification des trois visages en un, Marie-Madeleine, est très intéressante parce qu'elle permet justement de voir les étapes successives par lesquelles va passer cette femme. Donc, la pécheresse, moi je l'appelle comme ça, la pécheresse anonyme du départ, c'est la courtisane. C'est surtout par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à mes yeux de femme, c'est surtout celle qui n'a pas d'autre Dieu qu'elle-même en fait.
Je vous lis, ta conduite dévoyée a creusé le puits nauséabond dans lequel tu t'enlises.
Oui, elle se compte de ça, mais c'est ce qui détermine sa conversion, en fait. Elle est très malheureuse, cette vie-là a joui, très large du terme. Elle en est très malheureuse et c'est bien pour ça qu'elle va voir le Christ et qu'elle dépose...
Une courtisane de la pire espèce.
Non, ça c'est la vision qu'en ont les...
Comment Jésus, lui qui est prophète, accepte-t-il qu'une courtisane de la pire espèce se comporte ainsi à son égard?
Ce sont les hommes du banquet qui pensent comme ça. Je fais parler les hommes, là. Moi, j'ai beaucoup de tendresse aussi pour Marie-Madeleine, justement parce qu'elle voit qu'elle est partie sur un chemin qui est le chemin de l'ego, en fait. Et c'est là où elle parle beaucoup aussi à notre modernité, dans le sens où elle est... c'est une femme sans Dieu, au départ. Elle suit sa propre loi. Et donc, elle est dans un ego sans limite. Et elle se rend compte que cet ego sans limite l'amène nulle part.
Alors, revenons précisément sur ces charmes. Vous distinguez trois aspects de l'amour, l'éros, la philia, l'agapé. Je vous cite sur la philia. La somptueuse amitié qui vous unit ouvre ton cœur à une nouvelle dimension de l'amour, la philia, affinité élective au sein de laquelle chacun des deux membres s'efforce de faire grandir l'autre dans sa part la plus belle et la plus solaire. Un partenariat fondé sur la complicité, la solidarité, l'égalité entre deux êtres qui, sans la nier, envisagent la différence des sexes comme une opportunité salutaire de complémentarité, écrivez-vous. Vous insistez
sur la relation de Marie-Madeleine et Jésus. C'est vrai que cette relation nous permet de parler de l'égalité dans la complémentarité des sexes par cet amour philia, qui n'est plus amour éros, puisqu'il n'y a pas d'amour amoureux entre eux, mais d'amour amitié, encore une fois, de cette magnifique philia. Et ça nous parle aussi du fait que la relation de l'homme et la femme peut être aussi dans une superbe amitié. À l'heure actuelle aussi, où on est souvent dans une guerre des sexes.
Alors, cœur de femme, moi j'aime bien reprendre votre titre, aimer d'un cœur de femme, et c'est vous qui m'intéressait naturellement. Et je vous cite encore. « Du cœur par l'élan de vie, énergie puissante et vigoureuse qui lutte à chaque instant contre la mort. Le cœur bat et se bat pour contenir, puis répandre le flux nourricier aux différents organes de l'être humain afin de le maintenir vivant. Centre du corps, il est le reflet du centre cosmique, siège de la source d'où rayonne l'amour divin, lien invisible et essentiel entre tout et tous. » Donc là, on a cette espèce de cœur de femme, ce qui est au cœur de la femme, vraiment, qui est cette, je dirais, cet amour. Je pense à cette formidable sainte qui disait que notre cœur était une cruche qui recevait la source du Christ, mais la cruche est percée. Mais comme la source est abondante, il y a toujours de l'eau.
Pourquoi un cœur de femme, en l'occurrence? Parce que ces deux femmes, elles ont une compréhension profonde des événements. Enfin, Marie, là, dès le départ, Marie-Madeleine va l'apprendre en côtoyant le Christ. Elles vont comprendre, mais pas par le mental. Elles ne vont pas faire travailler... Évidemment, le mental joue, mais elles vont travailler et comprendre, méditer profondément la parole du Christ et aussi les faits et gestes du Christ et les comprendre en profondeur avec leur cœur de femme, justement. Et peut-être que ça, c'est un enseignement. Peut-être que les femmes sont plus ouvertes, justement, à cette traduction, si j'ose dire, et à moins faire jouer la mentalisation. Ce que la foi, c'est pas une expérience de mentalisation, c'est une expérience d'abord de cœur, d'ouverture du cœur.
Alors toujours ce cœur de femme, Marie et Marie-Madeleine, grâce à l'amour qui vous unit à Jésus et vous relie à l'intelligence du cœur que vous détenez en partage, vous n'avez aucun mal à interpréter ses paroles, car rien de ce qu'il dit ou fait ne vous est étranger. Votre intuition, perspective du monde, clairvoyance de l'âme purifiée, vous invite à l'écoute et à la compréhension des grandes lois qui le régissent, au premier plan desquelles figure celui de l'amour qu'enseigne le Maître. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà la quintessence de son message. Ce viatique, pour atteindre le Père depuis longtemps, vous l'avez fait vôtre en pratiquant le pardon, l'acceptation de ce qui est, la bienveillance, la compassion envers votre prochain et le don de vous-même. Dans et par l'amour, vous avez conscience que les êtres humains, égaux et solidaires, ne sont pas séparés, mais interconnectés. Or, cet amour qui circule entre eux n'est pas différent de celui qui lie l'homme à Dieu. Le cœur est la porte d'entrée du royaume, saint des saints où l'être dans sa plénitude resplendissante, réconcilié avec lui-même, les autres, sa destinée, coûte la paix et la félicité divine. Donc finalement, tout se rejoint et tout s'unifie dans le cœur des femmes.
Oui, et entre ces deux femmes, parce qu'elles vont se rencontrer, en fait, elles vont avoir des rôles très différents, des destinées aussi différentes. Elles vont porter un regard au départ très différent sur le Christ, mais elles vont se rejoindre effectivement. Et je dirais qu'elles leurs routes se rejoignent au pied de la croix, ce moment et ce lieu emblématique à l'acmé de la souffrance de Jésus. Elles sont debout ensemble.
Elles sont debout ensemble et elles sont au pied de la croix, main dans la main avec Marie-Madeleine. Vous vous dirigez vers le lieu de la sépulture, écrivez-vous, mais auparavant, Marie-Madeleine a demandé pardon.
Oh.
Herbar Murdisch, Mein Gott, extrait de la Passion selon saint Matthieu, Jean-Sébastien Bach. Vous avez reconnu Nathalie Stoussmann qui chante et qui dirige aussi l'orchestre. Je suis avec Cécilia Duteur pour Aimer d'un cœur de femme, en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine aux éditions du Cerf. Vous refusez, maintenant on passe à la deuxième partie de l'émission, au-delà d'un dialogue, c'est bien un trio en fait qui se révèle, car je vous y inclus, puisque votre jeu est omniprésent. Toutefois, il y a un oublié, Cécilia Duterre, dans votre livre, c'est l'homme. Tout se passe comme si Aimé d'un cœur de femme tendait vers un infini, une éternité, vers Dieu, sans que l'homme y soit invité ou simplement présent. Alors voyant Marie-Madeleine, l'homme passe pour péché, luxure, éros, voyant Marie, l'homme et son fils, on a l'impression que... alors, déjà, vous refusez l'idée que Marie ait eu d'autres enfants après Jésus, comme le dit saint Marc au chapitre 6. Vous insistez par trois fois pour dire que le mot frère de l'évangile désigne des cousins, donc ce sont des cousins dans la grande tradition. Joseph est évincé, toujours dans la grande tradition, c'est-à-dire que hop, il s'en va une fois que l'enfant est grand. Les femmes n'ont qu'un frère, Lazare, il n'y a pas d'époux, comme si la femme se suffisait à elle-même dans le cœur aimé d'un cœur de femme, et la femme semble se suffire à elle-même. C'est mon impression. De lecteur,
oui, une impression fausse parce que
et je vous ai bien lu.
Alors, d'abord, c'est pas vrai parce que l'homme est omniprésent, puisqu'on parle de Jésus de première page jusqu'à la dernière page, donc au contraire,
mais c'est bien ce que je veux dire. Il n'y a qu'un seul homme, c'est Jésus.
Alors, non, mais à travers justement la relation notamment de Marie-Madeleine à Jésus, je parle justement de la relation homme-femme et je parle de la relation homme-femme aussi de maintenant, c'est-à-dire que à travers cette relation qui est lumineuse, je montre à quel point justement il est possible non pas de se faire la guerre, mais je reviens en fait à une sagesse biblique ancestrale qui nous parle de complémentarité des sexes. Jésus, finalement, qu'est-ce qu'il voit en Marie-Madeleine? Au départ, il comprend qu'elle a une vie en fait effectivement dévoyée, qu'elle s'est décentrée d'elle-même. Il va la ramener à sa vérité. Donc c'est bien par les yeux d'un homme, mais de cet homme-là, qu'elle va être ramenée à sa vérité. Je termine mon propos, Christophe, parce que c'est pas vrai du tout, au contraire, je parle justement beaucoup de la relation homme-femme à travers cette sagesse biblique qui nous renvoie à comment on peut aussi exalter chacun, homme et femme, nos spécificités dans une complémentarité. C'est à ça que nous appelle aussi la relation, avec d'autres femmes.
Vous semblez l'évacuer ou le mettre en seconde. L'homme est la semence pour la maternité façon de servir la femme et le monde. Après quoi, il s'efface toujours comme Joseph selon la tradition. Finalement, il n'y en a que pour les femmes. Vous prenez l'égalité des sexes sans homme. Il n'y a qu'un seul homme, le Christ. Tout autre homme semble évacué dans l'histoire.
Je n'ai pas cette lecture-là, mais par contre, c'est vrai que...
c'est un homme qui vous lit.
Mais c'est vrai aussi que là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que je m'adresse à Marie et je m'adresse à Marie-Madeleine, qu'au milieu, il y a Jésus. Et c'est vrai que c'est une femme, moi, qui m'adresse à ces deux femmes. Donc c'est vrai que c'est un livre féminin, mais qui parle du rapport homme-femme, au contraire, et qui parle à quel point aussi, à notre époque, parfois ce rapport peut être dévoyé, parce qu'à travers justement l'expérience de Marie-Madeleine et cette mauvaise expérience du début de sa vie, de cet égo un peu et cet éros un peu triomphant, si j'ose dire, qu'elle expérimente. Je parle aussi de maintenant. Je parle aussi de maintenant, c'est-à-dire de la façon dont on prend aussi parfois, pas toujours, mais dans notre époque traite en fait la sexualité qui est beaucoup plus large qu'un rapport charnel et qui peut aussi avoir une dimension spirituelle. Il y a du sacré dans la sexualité et c'est ce qu'elle ne découvre pas au départ. Donc je parle quand même beaucoup en fait de la relation homme-femme.
Quand Benoît XVI, dans sa première encyclique Dieu est amour, aucun journaliste ne l'a relevé. Dès les premières pages, il dit il faut croiser l'éros et l'agapé. C'est-à-dire qu'il met un trait de bique sur 2000 ans d'histoire en disant que ce n'est pas séparé. Et alors vous êtes vachement dur avec vous. Avec vos contemporaines, je vous lis. Au temps de l'amour 2.0, je m'adresse à toutes les femmes modernes, mes sœurs. Gagne-t-on notre liberté en prêtant notre corps à des anonymes d'un soir, interchangeables, repérés sur des applications de rencontres? Se livre-t-on à la domination virile en devenant, sans même nous en rendre compte, un pur produit du fantasme masculin au nom de notre droit individuel revendiqué comme absolu à faire ce que nous voulons de notre corps? En se transformant en Diane Chasseresse sur la toile, ne servons-nous pas bien mieux les intérêts des des hommes que les nôtres. Ils n'ont qu'à se baisser pour profiter de celles qui, croyant agir dans l'exercice de leur libre arbitre et suivre leur propre inclination, assouvissent plus sûrement le désir que ces derniers cultivent à leur égard. Lorsque certaines d'entre nous brandissent le nombre de leurs aventures, apportant par ce triomphal fait d'armes la preuve de leur affranchissement, je reste circonspecte. Si sur les applications numériques, les deux parties se choisissent, certes, dans une parfaite égalité, le plaisir né de l'échange physique qui s'ensuit est-il mutuellement au rendez-vous? Combien de femmes simulent le leur pour combler le partenaire occasionnel, heureuse de passer à ses yeux pour une experte libérée et réjouie, à l'heure du tout pornographie, là où il y a une soixantaine d'années, la société demandait à ces dernières d'être des fées du logis s'épanouissant dans la domesticité et la maternité, aujourd'hui que tout travail gagne leur vie, l'injonction qui pèse sur elles est bien différente, être des amantes hors pair, acceptant même incidemment, de s'adonner à des pratiques peu conventionnelles, souvent très éloignées de leurs désirs. Pour le plaisir de qui, sinon avant tout celui des hommes, celui-ci serait-il partagé? La réduction de l'acte sexuel à sa stricte dimension pulsionnelle n'emprisonne-t-elle pas chacun des partenaires dans la satisfaction de ses propres besoins, donc en lui-même, plutôt que de le libérer? À travers ces lignes, on a l'impression que l'homme est un prédateur.
Non, c'est pas du tout. Là, je parle aux femmes. Oui. Je parle beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes.
Mais en voyant l'homme en creux.
Je leur dis... Où est votre liberté? Trouvez-vous votre, véritablement votre plaisir? Si c'est le cas, alors allez-y. Mais peut-être que, justement, on nous a tellement seriné cette émancipation sexuelle. Mais où nous mène-t-elle? C'est la question que je pose. Je n'ai pas forcément la réponse. Je pose la question et je m'inclus. Je dis, mes sœurs, hein, j'ai pas un regard distancié par rapport à ça. Je m'inclus. Je suis femme, moi aussi, des années du 21e siècle.
Hein. Alors, l'acmé de votre livre, et vous auriez peut-être pu le mettre en exergue, c'est une phrase d'un théologien, le professeur Joseph Amaré, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, et qui dit « Le partenariat ecclésial entre hommes et femmes est un lieu privilégié de l'exercice de l'agapé chrétienne, prérequis vital et permanent des changements de structure les plus souhaitables, car on le comprend, le grand changement, c'est que des femmes pourraient être ordonnées. »
Moi, je crois parce que Marie et Marie-Madeleine ont prêché, parce qu'elles sont des figures. Marie, c'est évidemment la figure de proue que l'on connaît. Et puis, Marie-Madeleine a été, c'est vraiment la de pécheresse, elle passe prêcheresse et elle va aller prêcher, comme vous l'avez dit, à la Sainte-Baume. Donc, et surtout, elle est reconnue comme telle. Vraiment, c'est l'apôtre des apôtres. Donc, effectivement, à travers ces deux figures, on voit que, en tout cas, la première communauté chrétienne acceptait que des femmes prêchent. Alors, moi, c'est la question que je pose. En tout cas, je pense qu'en tout cas, on pourra vraiment entamer une réflexion. Je crois que beaucoup de femmes aimeraient.
Mais passe, oui, mais pour vous, ça passe par l'agapé.
Oui, ça passe par tout ce cheminement, bien sûr, effectivement.
D'où le ce qui est peut-être au centre de votre cœur de femme, sans doute, avec en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine aux éditions du Cerf, aimée d'un cœur de femme, Cécilia Duterre. On vous retrouve mardi 13 à 19h à la librairie Gallimard au 15 boulevard Raspail. Vous pourrez dédicacer votre livre et je pense parler avec vos lecteurs et vos lectrices. Et puis, merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, à François Dieudonné, Philippe Alpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au Théâtre du Montparnasse pour Freud et la femme de chambre avec le metteur en scène Alain Sachs. Et puis, demain, de 22h à minuit, on vous retrouve, Cécilia Duterre. Allez, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.